Ce livre, il est la poursuite d'un travail que je fais quand même depuis quelques années, c'est de revenir sur cette question du féminisme, des féminismes. Moi-même, j'ai été élevée dans une famille de féministes. Ma mère était une militante féministe à l'île de la Réunion, donc dans un féminisme anticolonial, très fortement anticolonial. Et je n'ai pas découvert le féminisme en arrivant en France ni en allant à l'université. Ça faisait partie de ma vie. Et justement, pour moi, la question se posait de voir la manière dont les femmes étaient exploitées, les femmes du peuple, les femmes noires, les femmes racisées, à l'île de la Réunion. Donc la question s'est jamais posée pour moi simplement en truc binaire, c'est-à-dire la question raciale, coloniale, a été là dès le départ dans la manière de penser la libération des femmes. C'est une première chose. La deuxième chose, je l'ai déjà dit, je crois, assez souvent, c'est comment on est passé de libération des femmes, qui ont été le nom qui a été donné à de nombreux mouvements en Europe, à droit des femmes. Et à droit des femmes, dans une approche essentiellement à l'intérieur de la philosophie occidentale des droits, le droit individuel. Les droits individuels, la notion libérale des droits. Non pas que cette notion soit nécessairement mauvaise, mais libération des femmes, il y avait une partie sur la question des droits des femmes, mais ça allait plus loin que ça, c'était la question de la libération de la société, et surtout dans ce moment des années 70, c'est l'antipatriarcat et l'anticapitalisme. Mais pas tellement, justement, autre chose, donc je reviendrai là-dessus. Il y avait aussi pour moi la question de cette notion de genre. Quand est-ce qu'elle apparaît? À quel moment elle devient tellement hégémonique? À quel moment elle devient tellement naturelle qu'on l'utilise chaque fois qu'on veut parler des femmes, comme si genre, ça voulait dire femme? Et qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça invisibilise? Est-ce que vraiment la notion n'est pas épuisée un peu? Ne faut-il pas penser autrement? Donc, deuxième point. Là aussi, c'était de voir l'émergence dans le sud global de mouvements de femmes extrêmement forts et puissants qui avaient toujours été là. Ces féminismes du sud global avaient toujours existé, mais avaient été quand même en partie recouverts par le féminisme du nord au cours de la décennie de la femme des Nations Unies vers les années 80 et 2000. Et ces féministes reprennent, aujourd'hui on les voit extrêmement puissants en Argentine, en Inde, au Brésil, aux États-Unis, ou en Afrique du Sud, ou au Maroc, on a vu des mouvements de femmes. Et comment elles, justement, ramènent au cœur de la question féministe ce féminisme décolonial dont je parlais. Et on voit à la réaction des féminismes, de certains féminismes du Nord, à quel point ça les menace et donc à quel point il y a nécessité de réaffirmer cette question de droit des femmes dans leur approche libérale et individualiste. Donc c'est un peu ces questions qui m'ont un peu poussé à écrire cela. Il y avait aussi le fait d'être assez ennuyée par n'importe quoi, ce que j'entendais, n'importe quoi sur le décolonial, ou même sur les féministes, même sur les mouvements de libération des femmes, qui étaient un peu n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pourquoi un mouvement aussi, qui avait été quand même assez radical, assez politique, avait pu laisser advenir cet aspect tellement réactionnaire. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi cette dimension un peu radicale, auquel il a manqué la dimension raciale coloniale, et je reviendrai là-dessus, mais malgré tout, elle aurait pu se développer, il y a eu ce glissement vers droit des femmes, et aujourd'hui, je fais ce que je veux, tout ça. Et le livre commence par le fait d'une chose qui m'a vraiment aussi fait réfléchir beaucoup l'an dernier. C'était en janvier, il y a eu la victoire des femmes qui faisaient le ménage à la gare du Nord pour l'entreprise Honnête, après 45 jours de grève sur leurs conditions de travail, contre le harcèlement sur le travail. Et au même moment, sort la lettre de 100 femmes signée par Catherine Deneuve et d'autres sur le droit d'être importunée comme indispensable à la liberté sexuelle. Et c'est ça qui va faire la première page des journaux. C'est pas tant ça qui me surprend, parce que vraiment c'est d'une banalité que ce soit ça qui fasse la première page et non pas la grève des femmes. C'est plutôt le fait que beaucoup de féministes vont se précipiter sur cette controverse pour dire oui, c'est vrai, importunées, mais elles n'ont pas le droit, c'est des bourgeoises, c'est ceci, cela. Et qu'il me semble, mais pourquoi on est aspiré par cette question? Ça n'a strictement aucune importance. Qu'elles aient envie de se faire importuner, je veux dire, ça n'a... ce n'est même pas un sujet, c'est pas un sujet. Et comment ça attire, ça avait absorbé, il y avait évidemment des tas de, pas seulement de féministes blanches comme on dit, mais je reviendrai aussi sur le thème de féministes blanches, mais même aussi des tas de jeunes femmes féministes racisées qui se précipitaient là-dessus. Et je me disais, mais au même moment, il y a quelque chose absolument d'essentiel qui vient de se passer, cette grève de femmes. Parce que ça ramène la question des nettoyages qui avait été au cœur des questions du féminisme depuis le 19e siècle. Hein, dans les révolutions, d'ailleurs chez les révolutionnaires, les anarchistes, il y a cette question, qu'est-ce qu'on fait du travail ménager, avec les idées à l'époque de crèches collectives, de cuisine collective, de ceci et de cela. Bon, ça marche, c'est pas... Mais enfin, c'est une vieille question, cette question du travail, du soin et du nettoyage, pour penser la révolution, pour penser en tout cas l'après cet ordre-là. Je ne qualifie pas de quelle révolution, mais enfin, au-delà de cet ordre capitaliste et patriarcal. Et donc, ça me frappe que là, on voit revenir, et puis depuis, il y a eu d'autres grèves de femmes qui font le ménage. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que c'était donc au même moment que cette lettre. Et ce qui, pour moi, c'est que si ces femmes peuvent parler du droit d'être importunées dans le métro ou ailleurs, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont nettoyé le métro en question. Hein, et que, donc, elles peuvent évidemment circuler, se faire importuner, etc. Mais que, justement, ce qui est caché, ce qui est dissimulé, ce qui est mis en invisibilité, c'est toutes les femmes qui, chaque matin ou chaque soir, tard dans la nuit, rendent le monde propre pour qu'on puisse circuler. Ce monde du capitalisme racial et de la bourgeoisie, c'est-à-dire le fait que les gares, les aéroports, les centres commerciaux, les bureaux, les banques, tout ça, sont propres. C'est-à-dire cette circulation. Et il y a d'ailleurs un clip de cette boîte honnête qui s'appelle Life is Beautiful et qui est vraiment très intéressant parce qu'on voit une jeune femme professionnelle blonde, une trentenaire, elle se lève le matin et elle arrive à son bureau et on a vu passer des ombres qui avaient nettoyé, c'est des ombres chaque fois, qui ont nettoyé le bureau dans lequel elle peut s'asseoir. Puis elle va à l'hôpital rendre visite et pareil, c'est des ombres qui ont nettoyé, qu'on voit passer. Elle se rend dans le train, on a vu pareil des ombres d'honnêtes nettoyées. Et puis après, elle va au stade, c'est pareil. Elle marche même dans une pelouse, ça a été nettoyé par des gens de net. La question étant que chaque fois, ce sont comme des ombres qui passent. C'est-à-dire qu'elles rentrent chaque fois dans un espace, sans voir évidemment, mais que les personnes qui ont été là, mais qui rendent possible cette circulation qu'elle fait de lieu en lieu et qui rendent sa vie de femme professionnelle possible. Donc ce travail, le fait que des femmes, évidemment des féministes l'avaient déjà signalé, la possibilité pour des femmes d'entrer dans des professions au moment des années 70, de plus en plus dans des professions, comme ce qu'on appelle des professionnels, des catégories, parce que des femmes racisées se mettent non seulement à garder leurs enfants, évidemment, ça c'est une chose qu'on le sait, mais aussi à faire en sorte que ces lieux où elles vont aller travailler, parce que là c'est pas les femmes dans les usines, etc., sont toutes ces femmes racisées qui viennent. Donc ce travail, cette question de visibilité, invisibilité, aussi m'a intéressée. Donc toutes ces choses, c'est aussi pour moi la question de comment les droits des femmes, quand on y passe, deviennent de plus en plus vidés de la dimension malgré tout réformiste, on n'est quand même pas contre tous les droits, quand on va passer du libéralisme au néolibéralisme. C'est-à-dire le libéralisme accepte encore, je veux dire, le libéralisme, il y a quand même une idée de droit qui doit être accordé à la personne, à l'individu. Et le néolibéralisme, c'est quand même la loi du marché, si je puis dire. C'est régenté par la question du marché. C'est-à-dire que tout est, évidemment, la rationalité. Et donc, moi, je deviens, mon corps, moi-même, et ma propre entreprise. Je suis un capital que je dois faire fructifier. C'est en moi, je suis l'auto-entrepreneur de moi-même. Hein, il y a presque plus de genre dans le néolibéralisme, la question étant de penser tout comme quelque chose, qu'on est donc, chaque personne est un capital, et c'est en nous qu'on doit trouver l'espace qui va faire travailler notre entreprise. Hein. Donc si je suis un capital, je dois savoir faire fructifier mon capital. Et si je n'y arrive pas, c'est à cause de faiblesses internes, psychiques ou problématiques que je dois surmonter. Et tout à l'heure, d'ailleurs, cet après-midi, je disais que ce matin, parce que dans l'avion, je peux lire des journaux que je ne peux jamais, enfin que je ne prends pas l'occasion de lire. Donc je lisais Les Échos. Vous savez, ce journal de l'économie. Bancaire, pardon. Et il y avait un grand article sur comment on va amener l'entreprise dans les quartiers populaires. Et que c'était extrêmement important d'amener. Et il y avait des banques qui qui vont commencer tout un programme là, tout pour la porter. Parce que ce qui était expliqué, ce qu'il y avait manqué dans les quartiers populaires, c'est une défaillance psychique des personnes qui n'osaient pas. C'était en elles qu'elles n'avaient pas trouvé ce désir de devenir entrepreneur. Et donc, il fallait qu'elles surmontent cet obstacle psychique interne pour de pouvoir devenir, entrer, faire des entreprises. Et donc, les banques allaient commencer des programmes avec les associations, si vous voulez, d'auto-éducation, quoi, de soins de soi, au sens de la gouvernementalité de soi, pour que je puisse me lancer dans l'entreprise, quoi, je puisse devenir vraiment un capitaliste de mon capital qui est moi-même. Et ce passage-là, donc, comment ça va se poser pour les droits des femmes, pour la question des femmes, et comment les droits des femmes vont devenir une des cartes maîtresses, les droits des femmes toujours dans leur sens vraiment individuel, une carte maîtresse du néolibéralisme et de l'impérialisme. Et donc, comment ça se passe? Donc, quand je dis capitalisme, pour moi, c'est toujours capitalisme racial. Je sais que c'est une notion moins connue en France, très peu connue en France. C'est un marxiste africain-américain, Cedric Robinson, qui avait écrit « Black Marxism », et qui sont, en quelques phrases, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, l'Europe est déjà racialisée avant même de se lancer dans la traite et l'esclavage. Elle est que ce qui était racialisé en Europe, c'était notamment les Juifs et d'autres groupes. Et que donc cette idée d'une racialisation de la société existait déjà en Europe, et donc des personnes qui étaient discriminées parce qu'elles appartenaient à un groupe. Et que l'Europe, en allant conquérir le monde et faire la traite, va transporter cette idéologie et qui va être totalement renforcée et qui va basculer fortement à cause justement de la traite, puisqu'il faut quand même expliquer pourquoi on va déporter plusieurs millions d'Africains qui sont entièrement tous et toutes destinées à l'esclavage. C'est-à-dire la racialisation totale de l'esclavage colonial. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont mises en esclavage. Et que noirs et esclaves vont devenir très rapidement, on le sait dans toute l'idéologie, mais même dans le vocabulaire, hein, dans les dictionnaires en Europe, des synonymes. Et donc cette racialisation du travail esclavagisé va évidemment construire le noir et construire en contrepartie les blancs. Il y a peu de femmes blanches avant ce moment-là. Il y a des femmes, mais il y a des femmes chrétiennes, catholiques, protestantes, juives. Mais il n'y a pas de femmes blanches au sens. Et vraiment, blanc devient la création de la question de l'esclavage. Donc, toutes ces questions pour moi, si vous voulez, c'est pourquoi et comment les droits des femmes vont devenir cette carte maîtresse du néolibéralisme. Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses que je voudrais dire là-dessus. Dans les années 70, quand il y a toutes les luttes en France, mais aussi en Europe, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal surtout, puis dans d'autres pays d'Europe, pour changer des lois, des questions qui se posent sur l'hétéronormativité, la question des gays, des lesbiennes, tout ça, se produisent aussi d'autres choses à ce moment-là. Une entrée massive des femmes au niveau global dans ce qu'on appelle le marché du travail, au milieu des années 70. Une paupérisation plus grande des femmes à la suite des programmes d'ajustement structurel, des interventions impérialistes, avec des possessions des femmes qui travaillent dans les campagnes. On montre une paupérisation qui s'étend avec une plus grande urbanisation, les femmes qui viennent et qui vont rentrer aussi dans les travaux de soins et nettoyage. C'est le moment aussi on a une réorganisation du capitalisme mondial. On est en train de passer vraiment au néolibéralisme. Thatcher et Reagan vont être dans les années 80, les débuts des années 80, à la tête de leur pays. C'est vraiment un moment assez important, et le fait qu'on va en Europe, on va se focaliser sur certaines parties du féminisme, partout, pas toutes les parties, sur simplement la question donc du genre, en fait de ce qui s'appelait pas le genre, on va poser des questions. Parce que pour revenir en arrière, dans les mouvements de libération de femmes en Europe, il y a de vrais conflits, de très grands conflits, sur la manière d'aborder les choses. Par exemple, dans le mouvement des femmes en Italie, les Italiennes étaient contre la libéralisation, la loi, certaines étaient fortement opposées à la libéralisation de l'avortement. et de la contraception. Parce qu'elle disait que ça allait remettre tout le pouvoir à la médecine, aux médecins et à l'État, et que ça ne posait pas du tout la question de la dimension, comment d'interroger la normativité de la sexualité hétéronormée. Puisque, voilà. Et donc, elle disait, mais on va continuer comme ça, finalement, bon, ben, il y aura l'avortement, la contraception, mais finalement, la norme sexuelle hétéronormée ne sera pas remise en question. La même chose était posée sur les lois, quand il y a eu les lois sur le viol, avec de fortes oppositions, même en France d'ailleurs, sur le fait qu'on va faire une loi sur le viol qui remet tout le recours dans les mains de la police et du tribunal. Alors que la police et le tribunal sont des institutions racistes, sexistes et l'État. Est-ce que ça pose pas une question ? C'était pas évidemment de ne pas avoir poursuivre la question. Criminaliser le viol, c'était, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est ça que nous voulons ? Donc on voit qu'à l'intérieur des mouvements, ce n'était pas si clairement simplement des mouvements blancs bourgeois, il y avait vraiment fortement, surtout en Italie et en Espagne aussi, en France un peu, beaucoup moins en Allemagne, assez aussi en Angleterre, un peu moins au Portugal, parce que c'était surtout la lutte contre le régime fasciste de Salazar. En Espagne, c'était contre Franco, mais il y avait... Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pas solidifié. Par contre, la question coloniale raciale n'est pas posée. Aucun de ces mouvements, même dans leur dimension radicale, ne se posera la question du racial colonial. Quand je dis ça, c'est qu'aucun féminisme, aucun mouvement féministe en Europe ne se posera la question réellement, vraiment concrètement, de ce que l'esclavage colonial et le colonialisme lui a contribué ou pas contribué à construire, dans le féminisme même. Aucun ne se pose cette question. Donc je dis souvent, si vous voulez, dans la longue épopée des droits des femmes qui est racontée très souvent dans les histoires des droits des femmes, ou les histoires du féminisme français ou des féminismes européens, et qui culmine toujours avec l'obtention du droit de vote, en France en 1945, et puis après les autres droits qui sont accordés, de divorcer, de ceci, de cela, le droit à avoir un chéquier sans l'autorisation de son mari dans les années 70. Il est très peu parlé du fait qu'un droit a été accordé aux femmes françaises et européennes, mais bon, donc aux femmes blanches, c'était le droit de posséder des êtres humains, puisqu'elles ont été des esclavagistes. Il y a des femmes blanches qui ont été esclavagistes, qui ont possédé des êtres humains. Et ce droit ne leur était pas donné, certainement pas par leur genre, puisqu'à l'époque, elles ne pouvaient pas être médecins, avocates, aller à l'université, divorcer, enfin, des tas de droits leur étaient interdits, donc droit de vote. Par contre, elles avaient le droit. Parce que le droit de propriété privée était très important, et c'était leur race qui le leur accordait, et non pas leur genre. Et si on reprend donc cette histoire des droits en remettant la question de la propriété privée, qui a été quand même au cœur de la question des droits, de la philosophie des droits en Europe, et qu'on ne passe pas justement à cette philosophie abstraite des droits qui serait... On ne parlerait pas de propriété privée parce que ce serait vulgaire, mais on parlerait simplement des droits naturels que nous obtenons à notre naissance. Nous naissons libres et égaux en droit, donc de façon c'est masculin. On ne parle pas cette question. Donc pour moi, c'était de reprendre cette histoire, de voir, si vous voulez, à quel point avaient été aveugles à leur propre histoire. Et je raconte aussi Olympe de Gouges, par exemple, qui est cette grande figure du féminisme français, et qui écrit la première pièce anti-esclavagiste, Zamor et Mirza, et qui sera d'ailleurs, qui posera un problème, qui posera une controverse, parce qu'à l'époque, même une pièce pareille était pensée comme étant trop anti-esclavagiste. Et dans cette pièce, ce qui est intéressant, c'est alors Zamor et Mirza sont des esclaves, c'est un couple, hein, Zamor et le garçon, Mirza et la fille, enfin le jeune homme et la jeune fille. Et Zamor, il y a un contremaître qui a voulu, qui a harcelé Mirza, donc Zamor le tue et il s'enfuit sur une île. Il y a un bateau passe, naufrage, il sauve un couple, un jeune homme et une jeune femme, qui sont fiancés. Et la jeune femme, Claire, donc, est soignée par Mirza, qui la soigne et tout, et qui la sauve. Il se trouve que cette femme, Claire, est la fille du gouverneur de l'île où Zamor et Mirza étaient esclaves. Et Claire persuade Zamor et Mirza de revenir dans l'île où ils ont été esclaves et qu'elle demandera à son père, qui est le gouverneur de l'île, heureusement tout ça s'accorde bien, leur pardon. Donc, Zamor et Mirza y vont, et effectivement, Claire demande à son père qu'il soit libéré. Ils sont libérés. Donc, quand je raconte cette histoire, c'est que déjà, si vous voulez, la question est vue comme une relation interpersonnelle. La question de l'abolition de l'esclavage. Une question interpersonnelle où la femme blanche va sauver finalement par affection, par gentillesse. Et donc la question politique, évidemment, et raciale de l'esclavage n'est pas posée à ce moment-là. Et on peut penser pareil au fameux livre de Bernardin de Saint-Pierre qui sera un des plus grands succès du 18e, Paul et Virginie. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de cet épisode totalement nié, où Paul et Virginie sont chez eux, et les mères sont allées à la messe, arrive une jeune fille noire, absolument épuisée, en guenilles, et Virginie demande, mais qu'est-ce que c'est ? Je me suis enfuie de chez mon maître parce qu'il me battait, il me harcelait. Alors Virginie dit, mais c'est pas bien, je vais te ramener chez ton maître, tu vas lui demander pardon, et il te pardonnera certainement, et il ne te battra plus. Bon, alors, les voilà partis chez le maître, et l'esclave demande pardon à son maître, et qui aussitôt la condamne à plusieurs coups de fouet. Donc Paul et Virginie repartent en ayant fait leur bonne action, et dans la forêt, quand ils repartent vers leur maison, ils se perdent et ils tombent sur une bande de marrons, d'esclaves marrons, c'est-à-dire qui ont fui les plantations et qui ont appris ce qu'elles avaient fait en disant « c'est formidable ce que vous avez fait, ce beau geste magnifique, etc. » Et là, Virginie, mais moi je suis très très fatiguée, tout ça. Alors ils construisent un trône en branchage sur lequel ils mettent Paul et Virginie qui ramènent à la plantation. Donc toute cette manière de voir la question de l'esclavage va être dans toute la littérature du 18e, c'est-à-dire une politique de la pitié et de la charité, et de cette relation de la question toujours interpersonnelle qui va sauver l'esclave sous la question interpersonnelle. Et on voit déjà en place, bon, Bernardin Saint-Pierre n'est pas une femme, mais chez Olympe de Gouges, cette vision de la relation entre la femme blanche et la femme racisée qui ne peut être que sous une forme interpersonnelle, et là ça peut marcher. Et donc, pas sur, évidemment, ça ne peut pas être analysé de manière, qu'est-ce qui s'est passé, comment ces femmes ont été construites comme noires, esclaves, et donc, moins, ne comprenant même pas ce qu'elles veulent, ne sachant même pas ce que c'est la liberté, puisque c'est Claire et Virginie qui, finalement, les ramènent à l'esclavage. Donc, on pourrait parler de plus longtemps de ça, mais si vous voulez, cet aveuglement qu'auront beaucoup de féministes européennes, la plupart, à la question raciale et coloniale, c'est quelque chose qui court à travers l'histoire. Je parle très souvent d'Hubertine Auclert, cette grande figure du républicanisme féministe français, qui quand même écrira un texte protestant contre le fait qu'on a donné le droit de vote aux affranchis, c'est-à-dire aux hommes noirs qui étaient esclaves, en protestant, en disant, mais comment vous pouvez donner le droit de vote à des hommes qui sont vulgaire, pas éduqué, sauvage, et que vous ne le donnez pas à des femmes blanches qui sont éduquées et civilisées. Texte qui paraît donc quelque temps après 1848, l'abolition de l'esclavage, et écrira un livre sur un voyage qu'elle effectue en Algérie, qui est un livre totalement orientaliste, où elle dit que vraiment elle a rencontré des femmes voilées qui ne veulent qu'une chose, c'est de devenir françaises et être comme les femmes françaises, qui sont naturellement libres et beaucoup plus libres. Donc le fait que l'Europe serait le berceau naturel des droits des femmes est déjà là au 19e siècle, était là au 18e, et donc va se renforcer. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. La deuxième chose aussi sur la question de cette impossibilité de revenir sur la dimension raciale, c'est que je pense aussi que le féminisme européen s'est fondé énormément sur la question de la domination masculine, d'être victime des hommes. Nous sommes les esclaves de nos pères et de nos frères, comme les esclaves sont la propriété du maître. Et nous sommes, et dans les années 70 même, nous sommes les colonisés des colonisés. Une analogie qui est faite entre ces positions et les positions, alors que vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Mais cette analogie, cette fait que la domination masculine est le fondement même de leur situation, rend possible ces analogies et rend possible l'aveuglement aux autres formes, aux autres structures de domination. Si c'est les hommes qui me dominent entièrement, et c'est ça qui structure ce qui je suis, l'esclavage et colonial ne me concerne pas, puisque je suis moi déjà victime de la domination masculine. Donc ces autres régimes de domination et de dépossession ne me concernent pas, puisque moi j'étais déjà victime avant que ces personnes soient victimes. Vous comprenez? Donc, là, vraiment, la domination masculine. Et je pense que cette focus sur la domination masculine comme pilier central de l'explication de la situation des femmes, les a rendues encore plus, les a rendues vraiment, leur a permis de rester innocentes, de garder cette innocence, innocence au sens de fabriquer cette innocence, et qu'elles n'auraient rien à voir avec ça. Donc, de ne pas voir non plus comment ce que Aimé Césaire appelle le choc en retour, c'est-à-dire qu'inévitablement ce qui a été fait à la colonie pendant l'esclavage ou le post-esclavagisme revient chez vous et contamine même les pensées les plus progressistes, même les mouvements révolutionnaires. Pour beaucoup de féministes, pas le féminisme. D'autres, oui, mais pas le féminisme. Jamais le féminisme. Le féminisme pourra se protéger de cette remise en cause que certains mouvements dans l'extrême gauche, bon, ne soyons pas trop idéalistes, mais enfin quand même, ou même dans la gauche vont mener. C'est-à-dire que la lettre que Aimé Césaire adresse au Parti communiste français en 1956, en disant « La fraternité, vous la voulez bien tant que vous restez le grand frère, et que vous voulez, et que finalement l'universel que vous voulez, c'est votre, vous voulez rester, et que un communiste, vous comprenez, mais un communiste noir, vous n'en voulez pas. Parce que noir, vous ne voulez pas. Vous voudriez que moi, noir de Martinique, j'efface qui je suis. Et ça, c'est pas possible. Parce que je porte en moi une histoire qui n'est pas celle de l'histoire de vous. » Et donc, c'est ce que Césaire dit dans le discours sur le colonialisme et dans cette lettre de démission et dans d'autres textes, et qui parfois finira par constituer un écho dans certains mouvements révolutionnaires européens, ne touchera jamais les mouvements féministes, même radicaux. Donc, dans les textes qui sont publiés en 69, même des traductions du Black Panther Party ou des féministes noires, c'est comme si ça, pour les États-Unis, oui, mais ça ne constituait pas une auto-réflexion pour nous. C'est-à-dire ça, les États-Unis, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ici en France? Cette question ne se pose pas, n'arrive pas à se poser, vous voyez? C'est-à-dire, c'est en quoi, il y a des femmes françaises qui ont été colons en Algérie, en Nouvelle-Calédonie, au Vietnam, à Madagascar, qu'est-ce que ça a fait? Comment ça les a constituées? Et comment ça a constitué les femmes blanches? Et comment ça a constitué certaines femmes qui allaient là-bas dans une mission féministe? Il y avait des féministes qui se rendaient dans les colonies pour civiliser les femmes et pour effectivement constituer des écoles pour que les femmes... Et déjà très tôt, même on le voit avec Bertine Auclair, cette idée que, ce que je l'ai dit, c'est-à-dire que l'Europe est le berceau naturel des droits des femmes. C'est-à-dire que même si on ne les a pas encore obtenus et qu'il faut lutter parce qu'il y a des réactionnaires, nous savons. C'est intrinsèque à la question de l'Europe. Par contre, les autres civilisations, elles ne peuvent pas le comprendre. Alors les féministes réformistes vont dire, on peut le leur expliquer, ils vont finir par comprendre, et moi c'est ce que j'appelle donc le féminisme civilisationnel aujourd'hui. Parce que je trouve qu'il emprunte à la mission civilisatrice coloniale énormément d'éléments. Celui qui s'est renforcé depuis les années 2000. Cette idée qu'est naturelle, que la civilisation européenne serait naturellement détentrice d'une compréhension de ce que sont l'égalité des droits, les droits des femmes, l'égalité entre hommes et femmes, c'est naturel en Europe. Et donc, cette vision de la question de l'égalité des hommes et des femmes, et non pas justement qui sont ces hommes et qui sont ces femmes. Qu'est-ce qui a constitué ces êtres humains en hommes? Et qu'est-ce qui a constitué ces êtres humains en femmes? Comment l'esclavage et le colonialisme ont construit d'autres hommes et d'autres femmes, les ont racialisés, les ont rendus... Cette masculinité noire, comment elle a été construite? Ou la masculinité asiatique, ou la masculinité orientale, comme on dit, la féminité. Ces questions ne se posent pas à partir du moment où on oppose deux genres, les hommes et les femmes, comme si... ces deux catégories étaient les mêmes partout de manière uniforme et s'étaient créées partout. Or, on sait aussi que ce que Maria Lugones appelle la colonialité du genre, c'est-à-dire que cette conception du genre a été imposée aux peuples colonisés. Il y avait des tas de peuples qui n'avaient pas du tout ces conceptions du genre. Les hommes, les femmes, le truc binaire comme ça, ne les avaient pas. Ça ne voulait pas dire qu'ils ne comprenaient pas qu'il y avait une sexualisation différente ou que les femmes portaient les enfants. Les gens n'étaient quand même pas si bêtes. Mais la question de ce genre, de la manière dont le genre est conçu, est une invention européenne qui va tomber. Et c'est pour ça que je disais que je me demande si la notion de genre est aujourd'hui aussi fertile qu'elle l'a été. Et même s'il y a eu le travail, on sait, de Judith Butler sur Troubles dans le genre ou d'autres, Est-ce que finalement la notion de genre nous sert? Parce que finalement, quand on voit aussi à quel moment la notion de genre devient une notion hégémonique extrêmement importante pour les grandes organisations internationales, dont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ou d'autres, ou la Bill, Melinda et Bill Gates Foundation, qui veut que toutes les petites filles du monde soient éduquées. Pourquoi tout d'un coup Bill Gates veut que toutes les petites filles du monde soient éduquées? Enfin, toute cette manière dont effectivement c'est les petites filles qui sont l'avenir du monde, cette manière de transformer, de voir à partir du Nord comment et qui va être, qui va porter l'avenir, est important. Donc, moi, je pose cette question de cette utilité du genre et sa relation avec cette conception du monde, de la condition des femmes, essentiellement vue à travers la domination masculine. Alors, je vais maintenant venir à la question de, pour moi, à quel moment, à un moment donné, important, je trouve, dans l'histoire européenne et française, de ce basculement, qui n'est pas un basculement du style comme ça, mais qui annonce ce qui va se passer. 1989, au début de l'année, il y a la fatwa contre Salman Rushdie. Il y a eu la révolution iranienne, et cette fatwa réactive énormément tout un orientalisme. Je ne me prononce pas sur la question de la fatwa, je me prononce sur ce que ça provoque en Europe. Hein. Les musulmans ne comprennent rien à la fiction, ils confondent fiction et réalité, et toute une série de choses orientalistes. Il y a d'autres événements, mais alors je vais en garder trois. Il y a le 14 juillet du bicentenaire de la Révolution française. Et déjà, à la fin des années 70, il y a toute la théorie de François Furet, de l'historien François Furet, qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que, d'une part, la Révolution est finie, hein, alors que d'autres historiens ou analystes de la Révolution disent que la Révolution se poursuit. La Révolution française ne s'est pas totalement accomplie, puisque l'égalité n'est pas encore totalement accomplie. Donc il y avait cette notion d'une Révolution française toujours en devenir. Et Furet dit qu'elle est terminée. Et de toute façon, la Révolution française a apporté la terreur. Elle portait en elle la terreur. C'était inévitable. Et s'organise à la fin dans ces années, là, juste avant 89, toute une série d'ouvrages et d'articles qui commence à dire, en fait, les révolutions, c'est vrai qu'au début, c'était un truc généreux, c'est vrai, mais elles ont toutes mal terminé. La révolution bolchevique mène au goulag, la révolution cubaine à la censure, la révolution algérienne, les femmes à la maison, le voile, l'islam, la révolution française, la terreur, etc. Les révolutions, c'est anglaises et américaines qui nous auraient amené vraiment la vraie démocratie. Et aussi toute une série d'ouvrages qui sont anti-colonialistes. C'est-à-dire par des personnes, donc les empires coloniaux tels qu'on les connaît se sont effondrés. Et beaucoup, alors il y a eu ce récit pour la France de ces personnes qui ont été pour les indépendances, et vont être elles qui portent le discours anti-colonialiste. Ça ne viendra pas de la droite ou de l'extrême droite, ça viendra de gens identifiés à la gauche. Je dis identifié parce que François Furet est identifié à la gauche. Pourquoi est une autre question. Donc, sa parole est extrêmement importante et quand 89 arrive, le 14 juillet s'appelle, il y a un grand défilé sur les Champs-Élysées, s'appelle la tribu planétaire. Et cette tribu planétaire est un défilé de plusieurs tribus qui constituent donc, toutes ces tribus constituent la tribu planétaire qui descendent, hein, qui vont se retrouver à la Concorde. Et ces tribus, chaque tribu est identifié, on pourrait dire, par un marqueur ethno-culturel. Alors, les Africains sont à moitié nus et tapent sur un tambour, hein, des tam-tams. Les Russes défilent au pas de l'oie sous une neige artificielle. Les Anglais défilent avec des parapluies sous de la pluie artificielle, etc., etc. Et se retrouvent à la place de la Concorde dans une tribu globalisée, planétaire, devant les yeux des dirigeants des 7 pays les plus riches de la planète, c'est le G7, hein, à l'époque c'était le G7, et dont Thatcher et Reagan. Et on est là dans la célébration d'une globalisation enfin heureuse, sortie des révolutions et sortie des décolonisations qui ont été en fait finalement, qui portaient peut-être des promesses, mais finalement ce sont toutes des promesses brisées. Au même moment se déroule à la mutualité, au lieu des meetings anti-impérialistes et féministes, radicaux, tout ça, la réunion des 7 pays les plus pauvres de la planète. Et ces 7 pays les plus pauvres de la planète s'appuient sur la Déclaration des droits des peuples d'Alger de 1976, qui est sur le droit à l'existence, l'effacement de la dette du tiers-monde, des relations commerciales beaucoup plus justes entre le Nord et le Sud, en fait, toute une, vraiment toujours cette portée, cette promesse de la tricontinentale et de la décolonisation panafricaine aussi. Il rédige un manifeste qui devait donc être envoyé, qui a été envoyé aux dirigeants du G7, qui ne le liront pas, où il est demandé l'annulation de l'abolition de la dette du tiers-monde, des relations beaucoup plus justes entre le Nord et le Sud et d'autres choses enfin, qui portent. Et d'une certaine manière, je lis ça, c'est l'effacement du tiers-monde, presque l'effacement officiel. C'est la célébration des pays les plus riches, de cette globalisation, de cette grande fête sur les Champs-Élysées, sur la place de Concorde. Par contre, ça, vraiment, on ne veut plus en entendre parler. Et au fur et à mesure, et en septembre, un texte du planning familial français est publié qui dit « Il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte et qui est vraiment dangereux, c'est le voile. Il faut que nous intervenions, il faut que quelque chose soit fait contre le voile que portent les femmes. » Quelques jours plus tard, une lettre est publiée dans les journaux, signée par Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut, Régis Debray et deux autres personnes qui, elles, ont disparu, mais bon, voilà, qui sont aussi, comme vous le savez, des personnes identifiées pour des raisons à la gauche. Et donc, c'est cette question-là, ce sont ces personnes-là qui critiquent. C'est très important que ce soit ces personnes. Si c'était, les critiques étaient venues de la droite et de l'extrême droite, on ne les aurait pas entendues. Cette critique de la décolonisation et des révolutions doit venir, est venue de la gauche. Et donc, dans cette lettre, c'est on est là, c'est 89, c'est absolument important ce qui se passe, bicentenaire de la Révolution. Et il y a une chose, un danger qui menace la France, la République, l'Europe, la civilisation, ce sont les femmes voilées. Et donc, ce texte paraît en octobre 1989 et définit ainsi les musulmans comme ayant le patriarcat le plus dur de la planète. Du système solaire même. Hein. Et donc, quelques jours plus tard, paraît dans les journaux un appel à une réunion, à un meeting à la mutualité, toujours la mutualité, mais là, la mutualité a basculé du côté à droite, et qui s'appelle « Pour la laïcité, pour la dignité des femmes ». Et cet appel est signé par Gisèle Halimi, Madeleine Champsal, Ariane Mouchkine et d'autres, c'est-à-dire des femmes identifiées à la gauche, la Ligue des droits des femmes de Simone de Beauvoir, et qui ont été aussi des figures de l'anticolonialisme en France. Et dans les déclarations qu'elles font, elles disent « C'est extrêmement important. Aujourd'hui, le combat doit être mené contre l'islam et le voile. » Je ne pense pas qu'elles savaient à quel point leur discours allait avoir du succès. Mais elles ne vont pas s'arrêter. Elles vont envoyer des lettres tous les mois parce qu'elles trouvent que le gouvernement ne réagit pas assez. C'est le gouvernement, Jospin était ministre de l'Éducation nationale, c'est le gouvernement Rocard. Elle trouve que le gouvernement, mais il ne réagit pas, il est un peu mou, là, mais ce n'est pas possible. Donc, il y a des lettres qui sont publiées dans les journaux, qui sont envoyées au ministre. Enfin, vraiment, vous ne vous rendez pas compte du danger. Et du coup, très peu de temps après, dans les débats à l'Assemblée nationale, les premiers débats qui ont lieu sur le voile, on voit une alliance entre les femmes de droite et les femmes de gauche, les femmes du gouvernement socialiste de Rocard, des députés de droite, qui étaient à l'époque, je ne me souviens plus, enfin bon bref, de toute façon, ils changent de nom, mais c'est les mêmes, et d'autres, une alliance entre ces femmes autour, mais vous avez raison, ma chère, nous sommes d'accord, le voile, mais c'est vrai que c'est un scandale, mais ma très chère, mais je vous en prie, mais ce que vous avez dit, ma chère collègue, etc., tout ça, droite, gauche, comme ça, autour de ça, elles ont trouvé quelque chose de commun. Et tout ce vocabulaire des féministes françaises va devenir sens commun. Et se retrouvera dans les débats sur la loi sur le voile en 2004. Mais c'est autour donc de 89-90 que vraiment ça se consolide. Et qu'on va retrouver ce vocabulaire chez des féministes en Pays-Bas, au Danemark, et même en Allemagne, au moment en 89 de la fameuse... Non, pas 89, je perds mes dates. Quand il y a les événements à la gare de Cologne et que Alice Schwarzer, qui est la grande féministe allemande, va faire des déclarations en disant que les hommes musulmans aiment humilier les femmes. Et donc, il faut faire attention. Et qu'ils menacent les acquis qu'ont obtenus les femmes européennes. 2016. Donc, ça, c'est vraiment... C'était quand ?
2016.
Oui. Et donc, oui, c'était ça, ouais. Et ce que je veux dire, c'est que mais ça, on voit déjà, ce que je voulais moi, ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est ces basculements. Et comment ce sont des féministes françaises républicaines, identifiées à gauche, qui ont certaines, beaucoup d'entre elles, ont été dans la lutte, ont soutenu la lutte du peuple algérien pour l'indépendance, sont les porte-paroles de ce vocabulaire. Et du coup, lui donnent plus de crédence, plus de légitimité. Et vont offrir au monde politique et médiatique des formules. Patriarcat plus dur, les frères et les pères. C'est déjà là, hein, dans tous les discours, pour les frères et les pères. Alors, l'islam est associé dès 89 à mariage forcé à 12 ans, mutilation sexuelle, lapidation, voile, enfermement. Toutes les ficelles, on peut les tirer, elles sont déjà là. Et donc, vont se retrouver au fur et à mesure. Et vont devenir un moment de basculement, puisque 89, c'est aussi la chute du mur de Berlin. Et donc, la fin de l'histoire pour certains, et la question de la globalisation totale. Une carte maîtresse, ces droits des femmes, cette manière de penser les droits des femmes, va devenir une carte maîtresse de l'impérialisme et du néolibéralisme. Parce que tout va être forcé sur le fait que les mariages forcés, les mutilations sexuelles, et qui peut être pour ça? Donc, vous voyez, c'est le sens commun, quoi. Donc, on est construit un consensus autour de ça. Et qu'il y a beaucoup de victimes dans ces pays, dans ce monde-là, qui ne savent pas se défendre, parce qu'elles sont face à des hommes et des frères absolument brutaux, ignobles, et que donc c'est à l'Occident, à l'Europe, de venir. À la fois par les interventions impérialistes, certes, mais aussi par le néolibéralisme. C'est le travail qui va vous libérer. C'est l'entrée dans le travail, dans la production du capitalisme racial qui va vous libérer. C'est ça qui va vous libérer. Et donc d'être vraiment, d'entrer là, et nous on vous offre, le néolibéralisme vous offre, et l'occidentalisation vous offre cette autonomie dont vous avez besoin, vous ne le savez pas encore tout à fait, mais dont vous avez besoin et que vous allez avoir. Et on voit vraiment que du coup tout un récit se fait sur les mouvements, et donc du coup c'est la troisième vague, la quatrième vague, enfin des histoires de mécanique pour dissimuler le fait que depuis tout le temps des femmes racisées avaient lutté. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est à la fois des alliances entre des régimes autoritaires très, très violents et le néolibéralisme, qu'on voit dans certains pays d'Amérique du Sud ou dans l'Amérique du Nord. Ça ne gêne pas du tout le néolibéralisme d'être allié avec des régimes autoritaires, policiers, patriarcaux, ça ne les gêne pas du tout. Des patriarcats qui aussi, des patriarcats qui se réaffirment. Le patriarcat, pour moi, il est toujours racisé. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez être un tyran chez vous, mais quand vous sortez en France, ben vous êtes un noir ou un arabe ou je ne sais quoi, mais vous ne serez pas, ce n'est pas la même chose que les patriarches. Et même on voit bien au niveau mondial la manière dont les hommes du Nord se comportent, même avec les hommes du Sud, même quand les hommes du Sud sont des valets de l'idéologie du Nord. Donc ça c'est une chose, mais aussi ce que je voulais faire remarquer, c'est que très souvent, aujourd'hui, on met en avant des patriarches, enfin des hommes absolument d'une vulgarité totale, c'est même pas la peine de vous donner des exemples, qu'on opposerait à des hommes qui seraient quand même plus galants, se comportent mieux, ouvrent la porte aux femmes, leur offrent des roses à la Saint-Valentin, épousent des femmes plus âgées qu'eux, sont ouverts aux droits des gays, et tout ça. Mais la question, c'est que aucun de ces patriarches n'est contre le néolibéralisme ni l'impérialisme. Donc il faut qu'on fasse attention quand on voit aussi la manière dont ces patriarcats se reconfigurent, et c'est différent de l'un à l'autre, mais la question reste finalement de ce capitalisme racial et de ce néolibéralisme, et de la manière dont il fabrique des catégories femmes, c'est-à-dire une catégorie qui est renvoyé à des postes de travail précaires, sous-qualifiés, sous-payés et fragiles. Donc la dernière chose, pour revenir à la question du début, de pourquoi je m'étais intéressée à cette grève, c'est parce que je trouve que le travail du soin et du nettoyage, et je mets les deux ensemble parce que je trouve que le nettoyage, c'est prendre soin du monde, est aujourd'hui un terrain extrêmement important pour le féminisme décolonial, en cela qu'il rassemble des questions sur la migration, des questions sur la racialisation, sur la sexualisation de ce travail, sur l'industrie de ce travail, la manière dont elle est constituée, cette industrie, sur visibilité-invisibilité, travail qui est absolument nécessaire mais qui doit être invisibilisé, sur sa racialisation, sur la relation aussi avec l'industrie chimique, hein, parce que ces femmes utilisent énormément de produits chimiques et qu'il faut qu'il y ait cette odeur, etc. et tout. Que beaucoup de femmes qui travaillent professionnelles aujourd'hui peuvent le faire parce que ces femmes-là nettoient, donc la relation toujours affective, blanche, femme blanche et femme racisée. La question de tas de maladies, mais aussi quand on voit les maladies, on voit bon, les produits chimiques et puis les problèmes musculo-squelettiques, mais il y a aussi toute cette dimension de stress induit par le racisme et le sexisme, et aussi par ce que j'appelle l'économie de l'épuisement. C'est-à-dire que la plupart de ces femmes, qu'elles soient femmes de ménage à Buenos Aires, Maputo, Paris, Londres, elles vous disent qu'elles dorment 3, 4, 5 heures par nuit, parce qu'il faut se lever très tôt, parce que les transports sont toujours très longs, parce qu'en plus, elles doivent faire 2 ou 3 endroits le même jour, que les moments de transport ne sont pas comptés, et que donc elles sont absolument épuisées. Et cette question d'épuisement des corps racisés est au cœur, pour moi, du capitalisme racial. Et donc cet épuisement est aussi important à comprendre, je veux dire à intégrer dans l'analyse. C'est-à-dire en quoi les luttes, donc par exemple les luttes de féminisme décolonial, c'est évidemment pour que des conditions de travail soient moins dures et que les salaires soient un peu plus décents, mais aussi de voir quels sont tous ces liens et comment on peut tirer sur plusieurs choses. Donc par exemple, je ne sais pas, récemment on me posait la question, mais qu'est-ce que vous faites du féminisme écologique? Mais je ne vois pas comment le féminisme écologique ne peut pas être décolonial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir comment aussi même l'écologie est racialisée. Et d'ailleurs, bon, peut-être pour conclure là-dessus, dans cette question aussi de nettoyage et de soins, je vois se reconfigurer une division entre le propre et le sale. La gentrification, la forme d'urbanisation, les architectures, c'est-à-dire les endroits dans les villes qui ont des espaces verts, des petits oiseaux qui chantent, des bancs pour s'asseoir, des jolies terrasses où les enfants peuvent jouer en toute tranquillité, les rues sont balayées, sont propres, il y a des petites fleurettes partout. Et l'endroit où travaillent ces femmes qui viennent nettoyer ça, relégué là-bas, où l'air peut être pollué, l'eau peut être polluée, il n'y a pas de transport, les rues ne sont pas balayées, il n'y a pas un seul arbre, ou s'il y a un pauvre square, il a 3 morceaux d'herbe brûlée. Et cette reconfiguration de ce qui est de la vie confortable, de ce qui fait la belle vie, de ce qui fait l'endroit agréable, et qu'on voit de plus en plus se faire dans les villes partout. Cette forme de ville qu'on voit, ouverte pour les touristes, pour une certaine forme de consommation, se fait systématiquement sur la relégation des femmes, de femmes racisées, de leur famille évidemment très loin, sur leur travail invisibilisé, précaire, sous-qualifié, sous-payé, et leur exploitation constante. Si on fait, si vous voulez, ce que je dis souvent, si on fait un dessin en tranches, c'est qu'on a un immeuble et au fur et à mesure qu'on monte, les endroits sont beaux, il y a des jardins, il y a des terrasses, il y a de grandes baies ouvertes sur de magnifiques paysages, et vous descendez et au fond, la troisième cave au fond, c'est ces personnes qui travaillent pour que tout ça là-haut soit clair, beau, rempli de soleil, propre et agréable à vivre. Donc c'est le pilier, ça fait partie de ces fondations de ce capitalisme racial qui se reproduit et qui fabrique des vies absolument de plus en plus précaires. Et des vies, le capitalisme, je disais, c'est un producteur de déchets. Hein. Selon la Banque mondiale, je disais, c'est près de 11 tonnes de déchets par jour, qui sont produites, mais c'est aussi la production d'êtres humains comme déchets. Donc il y a une production de qui a le droit de vivre, évidemment, et qui n'a pas le droit de vivre, mais à l'intérieur de ça, ceux qui peuvent mourir sans que ça n'ait d'importance. Ou ceux dont les conditions de vie épuisantes, absolument épuisantes pour le corps, pour l'esprit, n'ont pas d'importance. Et c'est cela, pour moi, donc, ce lien, le terrain du féminisme décolonial, c'est d'étudier cela et de voir, donc pour moi, ce n'est pas l'égalité de genre, ce n'est pas la question du 50-50, ce n'est pas la question qu'on devienne toutes générales dans l'armée, surtout pas, ou des choses comme ça, c'est vraiment la question de se poser. Alors évidemment, après, il y a les luttes à faire tous les jours, jour après jour, Mais ça ne peut pas être de faire vraiment voir ce que le féminisme civilisationnel a mis en place comme discours, comme idéologie, comme propagande, et en quoi cela sert aujourd'hui les intérêts du néolibéralisme et de l'impérialisme, et de vraiment de ces processus de racialisation qui les accompagnent toujours. Merci.